Good afternoon. We're here for the hearing on the human rights situation in Haiti, requested by the Gonaïve Alliance for Development and Human Rights Respect in Haiti. We have representatives of the petitioners for the hearing here, as well as representatives of the state of Haiti. Welcome to you all. We have an hour allocated for the hearings. I propose that we proceed by allowing 20 minutes for the initial presentation by the petitioners, 20 minutes for the representatives of the state, which will leave the commissioners some time to ask questions and for some discussion. I will help you keep track of the time with these little signs here, and we'll proceed with. Thank you.
Merci de nous avoir accordé la parole. Notre sujet intitule « Le tribunal de première instance des Gonaïves répondra-t-il aux attentes de la population par rapport à la tempête d'Orfeuil ?» Après le crime crapuleux commis par des bandits de grand chemin sur la personne d'Alix Joseph, alors directeur général de la radio-télé provinciale, dont le corps a été retrouvé percé de 11 projectiles, rien ne présageait que les données allaient changer aussi vite et de manière si spectaculaire. Toute la population vivait douloureusement la prise en otage de la ville par des malfaiteurs de tout acabit qui, tous les soirs, pillent les maisons de paisibles citoyens, volent les biens d'honnêtes gens, violent les femmes et les filles sous le regard des chefs de foyer, tuent comme ils veulent, parfois en plein jour, en présence de tout le monde. Ils se donnaient tous les doigts, rançonnaient les petits marchands, s'adonnant à leur activité dans les marchés publics, imposaient leurs lois, exécutés sommairement, tout au profit de leur intérêt. Pour bien mener ces activités, les bandits faisaient régner dans toute la ville une atmosphère d'insécurité qui effraie les gens au point que, dès qu'arrive le soir, les rues sont vides. Eux seuls livraient à des activités nocturnes, car tout est paralysé le soir. Les gens ont peur dans leur foyer, puisqu'ils s'attendent à être attaqués à tout moment par des cambrioleurs. La population est maintenue dans cette situation depuis quelque temps. Mais durant les 5 premiers mois de cette année, c'était le comble. Les bandits ont fait des ravages. On se demandait s'il allait rester d'honnêtes gens dans la ville et s'il en restait, quels droits aurait-il en tant qu'individu? L'expansion de l'insécurité au Gonaïve de janvier, année 2007, et la tempête d'Orfeuil. Les 5 premiers mois de cette année ont vu monter d'un cran l'insécurité au Gonaïve. La population enregistre chaque soir, dans divers quartiers, des cambriolages en chaîne accompagnés de vols, viols, meurtres, assassinats. Tout se passe à la connaissance des autorités qui sont restées passives. Très souvent, on entend des rapports de certains gens qui ont eu des difficultés avec des cambrioleurs et qui font état de la passivité de la police en dépit des appels à l'aide. À un moment donné, on pouvait dire que les bandits avaient carte blanche pour opérer en toute quiétude. Cette activité malhonnête était devenue comme un métier. Car dans de nombreux cas, les victimes ont identifié des jeunes des deux sexes faisant partie des groupes de malfaiteurs. Malgré la multiplicité des actes de banditisme et l'expansion de l'insécurité, la justice reste muette. Aucune disposition du commissaire du gouvernement en tant que représentant de la société pour freiner l'élan des bandits et bloquer le phénomène. Tout le monde en parle. La population réagit à travers les médias. L'assassinat du directeur général de la radio-télé provinciale n'était pas une goutte d'eau. considérant l'atrocité du crime qui a révolté toutes les consciences. Le vase a plus que débordé. On a pu donc voir le mois de mai terminer en événement historique, marche pacifique, réunissant tous les secteurs socio-économiques de la ville. Funérailles réalisées dans la consternation et faisant mobiliser toute la ville. Brusquement, le samedi 26 mai, la police et la MINUSTAH passent à l'action en procédant à l'arrestation du plus puissant des chefs des groupes armés de manière spectaculaire. Depuis, la ville est sous contrôle de la police avec l'arrivée du commissaire principal Ernst Dorfeuil, descente des lieux, perquisition domiciliaire, arrestation, mobilisation des agents de police. Plus de 200 personnes arrêtées, une quantité significative d'armes à feu saisies par la police, un grand nombre remis volontairement, la chasse tous azimuts aux bandits dans le département de l'Artibonite et dans les environs. La population crie ouf, applaudit vivement et collabore de manière très appréciable dans les actions policières. Depuis, les forces de l'ordre sont sur pied de guerre. La tempête d'Orfeuil poursuit sa course. Attente de la population. Si la population s'en prenait aux forces de l'ordre, c'est qu'elle était mécontente du fait que celle-ci avait nié leur belle devise, protéger les surveillants. Elle était prise entre l'enclume et le manteau. D'un côté, les bandits la terrorisaient. De l'autre côté, qui devait lui servir de recours, elle ne jouissait pas de cette faveur parce qu'elle était livrée à elle-même. Nous ignorons le motif qui portait la police à avoir, dans la majorité des cas, une telle attitude. Car nous savons que des individus qui semaient la terreur dans des quartiers populeux et qui ont eu des mandats d'avenir émis au nom de la loi contre eux, alors qu'ils circulaient librement sans s'inquiéter et continuaient à nuire aux citoyens. Dans notre dernière présentation à l'audience de la 127e session, nous avions fait état d'une cinquantaine de mandats qui furent émis par le parquet des Gonaïves contre des présumés bandits et qui n'avaient jamais été exécutés. Ce sont ces mêmes bandits et leurs acolytes dont la police se jette aux trousses depuis le début de juin après l'arrivée du commissaire Ernst Dorfeuil. Ce sont eux-mêmes qui sont traqués actuellement, gagnent le maquis et cherchent des refuges partout dans la ville et hors de la ville. Mais la police fait bonne garde, bénéficie de l'appui de la population et les retrouve quand même dans leur cachette. Ce virage éclair de 90 degrés effectué par la police ne saurait laisser la population indifférente à entendre les plaintes des victimes de ces bandits. Ce n'est pas sans raison que l'arrestation de la plupart d'entre eux s'accompagne de réjouissances et de manifestations populaires. On peut se faire alors une idée des attentes de la population dans le procès de ces bandits qui se sont abusés de sa confiance quand ils étaient adulés à un moment donné par la population qui s'unissait à eux dans la lutte contre le pouvoir d'Aristide de 2003 à février 2004. Mais après les événements ayant conduit au départ de ce dernier, dans le souci de jouir à outrance de leur pouvoir et de s'enrichir en peu de temps, ils utilisent leurs armes pour commettre des abus de toutes sortes aux dépens de la population. Les préjudices dont celle-ci est victime sont d'une gravité telle que ses attentes sont incommensurables. L'appareil judiciaire, tel qu'il fonctionne au Gonaïve, les comblera-t-il? L'appareil judiciaire au Gonaïve, dysfonctionnement et discrédit. Plusieurs éléments justifient le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire au Gonaïve et le font discréditer. Dans un cadre très restreint, on peut les identifier au niveau du parquet, du tribunal de première instance, du cabinet d'instruction et dans certaines jurisprudences des compositions de tribunal, même relatives aux dommages-intérêts prononcés en faveur des victimes. Au niveau du parquet, un problème de ressources humaines se pose au parquet où il manque un substitut depuis plus de 4 mois. Les cas qui se présentent par devant les deux substituts en juridiction gracieuse sont nombreux et s'ajoutent aux divers dossiers dans lesquels ils doivent produire le réquisitoire définitif. Ils sont dépassés par le volume des affaires. Quant au chef du parquet, non encore habile à son poste après plus d'une année, il se contente d'assurer l'administration des dossiers. Ces derniers vont augmenter considérablement avec les effets de la tempête d'Orfeu. Les responsables des pouvoirs publics devraient renforcer le parquet du tribunal de première instance des Gonaïves de manière à le rendre plus crédible, plus fonctionnel et surtout à pouvoir faire face aux nouvelles donnes de la justice aux Gonaïves. Si les dossiers de ces bandits présumés criminels sont bien constitués et bien défendus par le parquetier jouant le rôle de ministère public, dans ces procès qui s'annoncent en chaîne, la justice gagnera en ce que la population verra ses attentes comblées et reprendra confiance dans l'appareil judiciaire. Au niveau du cabinet d'instruction, souvent des ordonnances du cabinet d'instruction donnent lieu à des recours qui interrompent et bloquent le procès ou cassent l'action du plaignant en accordant main levée, parfois sans même qu'il y ait une demande en ce sens. De telles erreurs sont graves, soulèvent des frustrations et discréditent l'appareil judiciaire. Des décisions de justice relatives aux dommages-intérêts. Le tribunal de première instance des Gonaïves fait souvent tort aux victimes d'actes répréhensibles en prononçant des dommages-intérêts dérisoires en leur profit. À titre d'illustration, notons, premièrement, qu'un juge femme avait octroyé 25 000 goudes de réparation à une élève de 16 ans qui a été violée par un onguent. Deuxièmement, qu'un juge pasteur avait condamné un récidiviste qui avait cambriolé une maison de commerce et qui avait emporté beaucoup de marchandises à 7 ans de prison par humanisme alors qu'il devait être condamné à perpétuité et à 7 000 goudes de réparation en faveur de la partie civile. Voilà autant d'éléments qui font douter d'une distribution juste et équitable de la justice en matière pénale et criminelle aux Gonaïves. Que de torts et de préjudices ces bandits n'ont-ils pas causé à la population? Que d'accusations n'ont-ils pas à leur compte? Recommandation. L'Alliance Gonaïvienne pour le développement et pour le respect des droits humains recommande à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Premièrement, d'accorder une attention particulière à ce long procès qui opposera ces bandits à la population des Gonaïves à qui ils ont causé de graves torts et des préjudices matériels considérables. Deuxièmement, de désigner un commissaire qui suivra ce procès dans toutes les phases de la procédure et qui devra soumettre des rapports à la commission selon qu'elle l'aura jugé à propos. La population haïtienne en général et la ville des Gonaïves en particulier se doit d'espérer ne plus revivre de telles situations eu égard aux prescriptions légales et aux conventions relatives aux droits humains, comme le pacte de San José, qui prévoit, entre fonctions de la Commission, de recommander au gouvernement, quand elle l'estime utile, d'adopter des mesures progressives en faveur des droits de l'homme, ainsi que des dispositions propres à promouvoir le respect de ses droits en accord avec leur législation interne et leur constitution. Merci.
Thank you very much. Please.
Merci, Monsieur le Commissaire. Et je voudrais d'abord remercier les représentants de l'association Agrida pour son rapport présenté sur la situation haïtienne. Et bon, je commencerai d'abord par les points positifs qu'il y a dans ce rapport. Et je viens à peine d'en prendre connaissance. Et je suis tout à fait d'accord, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement pour essayer de freiner les nombreux dérapages que nous avions eu dans la Tibonite. Et peut-être ce que je n'ai pas trouvé dans ce rapport, malheureusement, c'est l'assassinat de Joseph, vous en avez parlé, mais il y a eu, la semaine dernière, la volonté du gouvernement et de la police de traquer les assassins, et on vient d'arrêter celui qui avait assassiné M. Joseph. Donc nous pensons que c'est un pas considérable qui a été franchi, et c'est peut-être depuis des années, et dans l'histoire et politique de notre pays, c'est la première fois qu'on commence à voir le gouvernement qui fait un travail systématique qui consiste à arrêter les bandits qui tuent les gens. Il faut remonter très très longtemps dans l'histoire d'Haïti pour voir cela. Donc, et de ce côté-là, nous sommes très satisfaits de reconnaître que dans ce rapport, et l'équipe Agreda a rendu hommage aux efforts faits par le gouvernement pour redresser la situation sur le plan de la justice. Et je suis un peu inconfortable avec le début du rapport parce que je suis certain que la situation n'est pas rose en Haïti sur le plan des droits humains, mais je trouve quand même qu'il y a une espèce, et je ne veux pas utiliser un mot trop fort, mais il y a un peu d'exagération à mon avis et dans la façon dont on avait dépeint la situation au Gonaïve pendant la période du mois de et les six premiers mois du mois de l'année 2007. Et personnellement, j'ai été en Haïti en avril 2007 et comme tous les Haïtiens, très préoccupé par l'évolution de la situation dans mon pays et avec la volonté de voir comment faire pour améliorer cette situation, j'étais quand même assez frappé de voir à Port-au-Prince, même avant le mois d'avril, et c'était déjà pendant le mois de février, j'en avais parlé d'ailleurs au cours du dernier rapport qu'on avait ici, et j'avais parlé de la participation de tous les Haïtiens dans le carnaval 2007, qui était déjà pour nous un fait positif. C'est que les gens commencent à reprendre espoir dans ce pays. Donc, je ne connais pas très très bien la situation de tous les jours au Gonaïve, mais personnellement, je trouve que compte tenu des efforts faits par le gouvernement pour attaquer les problèmes d'insécurité, je trouve que les termes utilisés dans le rapport par rapport à la situation au Gonaïve pendant les six premiers mois de janvier me paraissent un peu très forts. Et bon, je ne vais pas demander à l'équipe de corriger, mais quand même, je vais informer le gouvernement pour qu'on puisse nous donner des informations beaucoup plus précises là-dessus, puisque nous n'avons pas ces informations. Il est vrai qu'il y a eu des groupes de bandits qui ont posé des actes au Gonaïve, qui n'ont rien à voir avec le pouvoir en place. Et il est tout aussi vrai, comme l'a reconnu et les représentants de l'Agreda, le gouvernement, la police nationale, a fait un effort systématique pour essayer de freiner ces groupes de bandits. Et aujourd'hui, je me rappelle, lors du passage du représentant de la CIDH en Haïti, il avait rencontré le président Préval. Le président avait, en long et en large, parlé des problèmes que nous rencontrons avec la justice haïtienne, en disant que c'est une justice qui a de graves problèmes d'infrastructure. Par exemple, il avait souligné le fait que le parquet de Port-au-Prince n'a pas un endroit pour fonctionner. Même le président de la Cour de cassation n'a pas vraiment un endroit pour fonctionner. Donc, il faut prendre de nouvelles dispositions pour corriger tout cela. Et aussi, il avait parlé de sa volonté de faire appel au mouvement des droits humains pour qu'on puisse aider le gouvernement à faire relever des problèmes en matière de dysfonctionnement de la justice en Haïti et pour voir comment commencer à donner des réponses à tous ces problèmes. Et je viens d'apprendre au courant de cette semaine que cette commission a été créée. Elle commence déjà à travailler de concert avec le gouvernement haïtien. Donc, quand je prends ce rapport, c'est un rapport à mon avis qui prouve qu'il y a une volonté de la part du gouvernement haïtien pour résoudre les problèmes, mais en même temps, c'est vrai, nous sommes sortis de très loin. Il y a beaucoup à faire. Et on ne pourra pas le faire sans le support de tout un chacun, sans le support des Haïtiens, sans le support des mouvements des droits humains haïtiens, et aussi sans le support de nos amis et de la CIDH, sans le support de nos amis de l'OEA. Donc, en gros, c'est ce que je voulais ajouter. Et peut-être, ce qui me fait un peu peur dans ce rapport, et c'est pourquoi j'en ai parlé en disant que je trouve que le début était un peu trop fort, les termes utilisés étaient trop forts, on a l'impression qu'il y avait une volonté gouvernementale de laisser un groupe de bandits s'accaparer de la ville. Je ne crois pas qu'il y avait cette volonté, parce que dans le rapport qui a été présenté sur Haïti, et devant l'Assemblée générale de l'OEA, je me rappelle de la réaction de mon ministre. Il était assez choqué en disant, « Mais Julie, quand même, dire que la situation est aussi grave pendant l'année 2007, je ne suis pas d'accord. » J'avais dit, « Bon, à mon avis, ils voulaient parler de l'année 2006, les 6 derniers mois de l'année 2006, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait le rapport pour l'année 2007. » Donc, c'est là encore qu'il faut faire très attention. C'est sûr que nous avons beaucoup pas corrigé en Haïti, mais en même temps aussi, quand il y a des progrès qui sont faits, il faut les reconnaître, il faut tout faire pour les consolider et non pas les déstabiliser. Merci.
We have quite a bit of time for questions and discussion, and so I'd like to turn first to my colleague, Commissioner Claire Roberts, who is also the rapporteur for Haiti.
Thank you very much, Mr. Chairman. I have a few questions of both the government and the petitioner. And the question of security, mainly. There was a time when it seemed that the government was not, and not necessarily this particular elected government, but there was a time when it would appear, particularly during the interim, in the period of the interim government, that the government was not in control of all parts of Haiti, that the state security presence was weak in some parts. I wonder if Your Excellency, if you could assist us by saying what is the state of play now, and by the same token, if the representative from the Alliance could indicate your impression of the government's control of security in various parts of Haiti. That was one question. The other was to do with the relationship between, as mentioned, what is the relationship between the executive and the judiciary, and between the judiciary and the police. Give us an idea of how matters stand where that is concerned. The last area, like some assistance with, and that is with the on the question of disarmament of the nation. So what is the plan? What is the program? How is it working? What is the position with getting the guns out of the hands of civilians?
If I may add a few questions and then leave the time free for you to answer them in whatever order is most convenient for you. This renewed, or perhaps new for the first time in at least many years in Haiti, efforts to ensure citizen security, which with both sides here have recognized, I wonder what are the prospects for it being sustained in an institutional way? In other words, are the efforts merely isolated, concentrated, intense efforts in a particular place in a particular time? Or are some steps being taken to help ensure that the level of security that has been won will be sustained over time? The second question has to do with the tension that inevitably exists objectively here between the forces of public order and their efforts to rein in the situation of violence and insecurity, and the situation which we've recognized before is to be very difficult with regard to the condition of prisons, conditions of detention. I wonder if the large numbers of people being detained are not only exacerbating the difficulties that the Commission has already identified regarding conditions of detention and prisons, as well as the procedural problems related to that, such as the long delays in pretrial detention. If we're arresting massive numbers of people now, what is happening to what was already a difficult situation? The final question that I would like to know specifically from Mr. Ambassador, if you have any information about, is that from what I understand, there are at least three bills that the government, pieces of legislation the government has introduced to Parliament regarding magistrates, having to do with a council of magistrates being formed, a process of education of formation, and perhaps some other issues. And I'm curious as to the status of those laws and what their prospects are for going forward. Thank you.
Et est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement a le contrôle du pays? Je ne veux pas dire que c'est un pays qui est totalement contrôlé par le gouvernement pour une raison simple. Ce pays n'a pas suffisamment de policiers pour avoir un contrôle réel du territoire national. C'est un problème. Mais cependant, connaissant mon pays, pendant des années, on a vu très peu de membres de forces de l'ordre arrivent à maintenir une situation plus ou moins stable en Haïti. Tout le problème, c'est une question de volonté gouvernementale. Quand il y a des signes positifs donnés par le pouvoir en place, à savoir qu'il n'a pas la volonté de composer avec les bandits, tout de suite, on constate que le nombre d'agressions baisse. Et les bandits commencent à croire qu'ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que le gouvernement est clair là-dessus. L'actuel Premier ministre, l'actuel président de la République ne cherche à avoir aucun rapport spécifique avec des groupes de bandits pour une question de stabilité politique, pour leur pouvoir. Donc ce qui fait que maintenant les bandits savent qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent en Haïti. Donc, que ce soit Cité Soleil, il y a eu un effort systématique qui a été fait par la police avec les forces internationales et la MINUSTA pour mettre de l'ordre à Cité Soleil. Aujourd'hui, Cité Soleil est sous le contrôle de la MINUSTA, sous le contrôle de la police. Mais, comme dans n'importe quel pays, de temps en temps, nous avons quelques débordements dans Cité Soleil. C'est tout à fait normal. On en a à New York. Ne parlons pas pour un pays comme Haïti. Bon. Donc, et par exemple, j'avais cité le cas en avril dernier, quand j'ai été en Haïti, personnellement, j'étais partout. J'étais dans le nord du pays. À minuit, je circulais partout dans le nord du pays. Et personne n'avait peur. J'étais même dansé dans un bal. J'aime ça. Donc, personne n'avait peur. Donc, ce qui prouve que de ce côté-là, il y a un effort qui est fait. Et nous pouvons qu'à nous féliciter. Il y avait des problèmes bien précis à Cité Soleil, des problèmes bien précis à Bel Air, et aujourd'hui, oui, encore quand j'étais à Port-au-Prince, je me rappelle quand quelqu'un qui conduisait avec moi et sa voiture voulait passer dans la zone de Cité Soleil. Je dis, mais on peut passer là? Il m'a dit, mais non, il n'y a aucun problème, c'est fini. On est passé dans cette zone sans aucune crainte, ce qui était impensable il y a de cela 6 mois. C'était impensable. C'était vraiment des zones sous le contrôle des bandits. Donc, un travail systématique a été fait et on s'en félicite. Et bon, malheureusement, je ne connais pas très très bien la réalité des Gonaïves. en allant au Cap-Haïtien, je voulais y aller en voiture, en allant au Cap-Haïtien, j'ai traversé les Gonaïves. Bon, j'avais pas trouvé une situation vraiment de peur généralisée au Gonaïves. J'avais pas trouvé ça, mais j'étais resté uniquement quelques secondes et quelques minutes au Gonaïves. Ce n'est pas ma région. Je viens du Nord, j'étais beaucoup plus intéressé à aller dans le Nord. Donc, voilà en gros par rapport à cette question, à savoir est-ce que le pays est sous le contrôle du gouvernement. C'était plusieurs parties. Il y a un effort qui est fait. Et aujourd'hui, les zones les plus dangereuses, Cité Soleil, Bel Air, sont sous le contrôle de la MINUSTA, sous le contrôle de la police. La police rentre en toute liberté dans cette zone-là. Et relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Bon, ce que je peux vous dire, il y a de la part du président, il vous l'avait dit clairement, quand vous êtes passé en Haïti, une volonté de laisser l'appareil judiciaire fonctionner en toute liberté. Bien entendu, le gouvernement, de temps en temps, doit apporter le maximum de support à l'appareil judiciaire pour qu'il puisse fonctionner. Et j'ai senti, du côté du président, une grande volonté d'apporter le maximum de support à l'appareil judiciaire. Mais souvent, le président est très clair là-dessus. Quand il n'a pas les moyens, il le dit ouvertement à tout le monde. On n'a pas les moyens, il faut voir avec nos amis comment faire pour y faire face. Et par rapport à la justice et la police, je crois d'ailleurs, le président vous l'avait dit, quand vous avez reçu à Port-au-Prince, il avait expliqué qu'il y a un problème de formation avec ce qu'il faut faire du côté de la police haïtienne. En disant que quand un policier va faire une arrestation, il ne sait pas très très bien comment faire cette arrestation, comment traiter ce dossier avec la justice haïtienne. Donc souvent ça pose des frictions dans les relations entre la justice et la police haïtienne. Et là, le gouvernement en est conscient, il y a une volonté de la part du gouvernement pour voir comment résoudre ce problème. Et sur la question du désarmement, il y a la commission qui a fait son rapport récemment, qui a reconnu qu'ils n'ont pas pu réellement avoir beaucoup d'âmes. Mais tout le monde constate quand même que sur le plan de la sécurité, les choses ont beaucoup amélioré. Et nous espérons qu'ils vont continuer. Et très clairement, le chef de la commission de désarmement a clairement exprimé sa volonté de continuer à faire son travail de désarmement dans le pays. Alors maintenant, comment maintenir ce climat pour répondre à la question qui a été posée? De ce côté-là, personnellement, je suis optimiste. Je ne serai pas le jour où, au niveau gouvernemental, on tournera le dos à la volonté de rechercher le maximum de consensus national dans le pays. Nous avons un pays qui souvent est très divisé sur les questions d'ordre politique. Depuis qu'Haïti est Haïti, on a toujours vu ceux qui sont en place, ceux qui sont au pouvoir, utiliser des groupes de pression pour consolider leur pouvoir. Aujourd'hui, l'approche de l'actuel gouvernement, c'est de préférence rechercher le maximum de consensus national avec tous les secteurs politiques haïtiens, en disant que nous avons un passé dans ce pays, un passé respectable. Malheureusement, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous avons eu trop de luttes fratricides entre nous. Il est temps qu'on mette fin à ces luttes fratricides. Il est temps qu'on commence ensemble à construire notre nation. Et je peux vous dire que, de plus en plus, j'ai senti la volonté, non seulement du côté du gouvernement, mais aussi, il y a un écho très favorable du côté de toutes les forces politiques haïtiennes pour aider le gouvernement à avancer de ce côté-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis très optimiste dans notre chance pour continuer à maintenir ce minimum de climat et d'ordre national que nous avons de plus en plus. Ensuite, sur la question des prisons, c'est sûr, c'est un problème majeur. Et l'ambassadeur Rodrigue a peut-être des informations beaucoup plus précises sur ces deux questions par rapport aux prisons et par rapport aux différents lois qui sont présentées devant le Parlement. Je passe la parole sur les prisons, notamment.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Bon, c'est pas que j'ai de plus amples informations, mais tout simplement, récemment, il y a eu une mission de la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui s'était rendue en Haïti, justement, pour visiter les prisons Et ils ont cette mission a pu faire visiter les prisons, effectivement, et a fait sortir un rapport où, dans lequel elle a fait connaître les problèmes qui se posent, les problèmes que d'ailleurs tout le monde en Haïti, dont tout le monde en Haïti en parle, c'est la population carcérale qui est vraiment importante et il y a un manque d'infrastructures pour recevoir tous les gens qui sont incarcérés. Actuellement, le gouvernement est en train de prendre des mesures, pas le gouvernement, le ministère de la Justice est en train de prendre des mesures pour réduire la population carcérale je crois que cette semaine, on est en train d'étudier le dossier d'un grand nombre de personnes emprisonnées et celles qui sont là depuis longtemps sans pouvoir être jugées, sans avoir reçu avoir fait l'objet d'un procès, seront et qui aussi n'ont pas été impliqués dans des crimes crapuleux, dans des actions vraiment répréhensibles, ils vont être relâchés. On parle de plusieurs centaines de personnes comme ça qui vont être remises en liberté. Et ensuite, le gouvernement, au niveau du Parlement, est en train de présenter certaines lois, certaines conventions internationales pour être ratifiées. Et je sais que récemment, on a ratifié la Convention sur la corruption, ce qui est très important en Haïti parce que c'est l'un des problèmes majeurs dont souffre actuellement en Haïti, le problème de corruption. Donc tout cela montre que le gouvernement a une volonté et manifeste de faire avancer le pays, surtout dans le domaine de la justice. Et nous pensons que dans un avenir proche, on pourra avoir de très bons résultats dans ce domaine-là. Donc merci.
Et sur la question des lois qui sont présentées devant le Parlement, nous n'avons pas d'informations précises pour savoir est-ce qu'ils vont les étudier. À mon avis, ils vont le faire, mais on n'a pas d'informations précises là-dessus. Et pour vous donner, avant de laisser la parole aux représentants de la GRIDA, peut-être une information qui est importante et d'avoir au niveau de la Commission interaméricaine des droits humains. 1957, quand Duval est arrivé au pouvoir, il est resté au pouvoir pendant des années, près de 28 ans au pouvoir. Il avait essayé de consolider son pouvoir à partir de ce qu'on appelait à l'époque les Tonton Macoute, qui était une force paramilitaire, qui était une espèce de support au gouvernement en place. Donc, il y avait une espèce de complicité entre eux, le gouvernement et ses forces paramilitaires. Donc à partir de ce moment, ces forces avaient le droit de tuer, le droit d'agir et avaient la complicité du pouvoir en place. Donc il y avait vraiment un tas de violations des droits humains pendant toute la période de Duvalier. Après Duvalier, on a eu, pendant la période du coup d'état militaire de 1991 à 1994, il y a eu en Haïti ce qu'on appelait le mouvement Frappe. Là encore, c'était des gens qui apportaient tout leur support au coup d'état militaire. Et ces gens, au nom de ce support, eh bien, pouvaient rançonner la population, pouvaient poser des actes répréhensibles parce que le pouvoir avait besoin d'eux. Après, pendant 2001 jusqu'à 2004, peut-être 2004, oui, on a eu le mouvement, les chimères, c'est ça, je ne m'abuse, on a eu les chimères. C'était encore des groupes armés, civils, qui supportaient le régime du président Jean-Pierre Aristide et qui, en fonction de ce support, pouvaient poser des actes et il y avait un tas de violations des droits humains. Aujourd'hui, à ma connaissance, je ne connais pas de mouvement qui se réclame du pouvoir et qui pose des actes répréhensibles au nom du pouvoir. L'approche est différente. L'approche de l'actuel gouvernement, c'est de dire nous devons, entre les forces politiques haïtiennes, les forces sociales haïtiennes, rechercher le maximum de consensus national. Et je me rappelle au cours du passage du président, et le président ne voulait pas vraiment prendre crédit. Et pour cela, le président Préval, dans une rencontre avec le représentant de l'OEA, le secrétaire général de l'OEA, et j'avais dit, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous. Et vous savez, ce n'est pas de mes habitudes de flatter les gens. Et vous savez que je suis un homme politique avant d'être un diplomate. J'aime bien les luttes politiques. Mais je dois rendre hommage au fait que Duvalier est parti en 1986. En même temps que Pinochet et Bordaberry, si j'ai bonne mémoire, Videla, dans les autres pays de l'Amérique latine, en Argentine, etc. Bordaberry en Uruguay, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, qu'est-ce qu'on a pu constater? Ces pays ont su rechercher, après 1986, le minimum de consensus pour refaire l'unité nationale. Malheureusement, en Haïti, au lieu de rechercher ce minimum de consensus après le départ de Duvalier, nous avons tout fait pour diviser au maximum la société haïtienne. C'est pourquoi, si ces pays ont connu aujourd'hui une grande alternance démocratique, nous, par contre, nous sommes encore en train de tâtonner sur le plan institutionnel. Donc, je disais au président, il faut reconnaître que vous avez fait tous les efforts nécessaires pour rechercher le minimum de... Il m'a dit non, le maximum de consensus national. Donc, sa volonté, ce n'est pas rechercher le minimum, mais le maximum de consensus national. Aujourd'hui, on peut s'en féliciter, il y a cet effort, et je pense que les amis qui sont là ne vont pas apporter un démenti à ce que je suis en train de dire. Il y a cette volonté et notre rôle en tant qu'Haïtien, c'est de tout faire pour aider le gouvernement à renforcer ce climat de consensus national. Merci.
Before turning the word over to the representatives of Agreda, I think Commissioner Roberts has a follow-up question.
Ambassador, just one area I did not hear you on. Disarmament. Are the guns out of the hands of the... for instance, are the ex-soldiers, matters been settled with them? Are they were complaining about the severance and what have you? Is that all settled? But mainly, disarmament. What plans are afoot to try to disarm civilians, to get the guns out of the hands of the civilians?
Dans un premier temps, l'approche de l'actuel gouvernement, c'était de rechercher le maximum de dialogue avec le groupe des bandits pour voir s'ils vont accepter de déposer les armes. Cela avait créé beaucoup de remous dans le pays. Beaucoup de secteurs avaient exprimé leur désaccord avec cette approche en disant qu'on pouvait demander à des bandits d'accepter volontairement de déposer les armes. Et il faut le connaître, ce gouvernement a pris place en mai 2006. Pendant environ 6 mois, il y avait une situation assez difficile. On avait beaucoup de kidnapping dans le pays. Donc c'était une situation extrêmement préoccupante pour tous les Haïtiens. Au niveau du Parlement, j'étais conscient que le Parlement a tiré la sonnette d'alarme en disant au gouvernement, ça ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas vouloir négocier avec les bandits. De toute manière, les bandits, en disant que nous sommes prêts à négocier avec eux, parce qu'ils sont forts et ils vont continuer à poser des actes antidémocratiques. Donc, qu'est-ce qu'on a vu par la suite? On a vu ce même gouvernement qui a changé de stratégie, qui a commencé ouvertement à arrêter, à frapper les bandits. Aujourd'hui, presque tous les bandits connus sont sous les verrous. Que ce soit des bandits de Cité Soleil, des bandits de Bel Air, des bandits de la zone de Matissan, ils sont tous sous les verrous. Donc, qu'est-ce qu'on constate en retour? On constate une baisse considérable dans les kidnappings, pour ne pas dire qu'on a peut-être 1 ou 2 kidnappings par mois dans ce pays, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a une baisse considérable dans les kidnappings. Et bon, là, je parle beaucoup plus au Port-au-Prince, je ne connais pas la réalité des Gonaïves, puisque la presse parle beaucoup plus de la situation à Port-au-Prince. Mais j'ai été dans le Nord, il y avait déjà un climat assez calme. Maintenant, ce qu'il faut quand même, là où j'ai des inquiétudes, et on en a parlé au président de la République, le grand problème, c'est le fait que en Haïti, nous sommes devenus aujourd'hui un point de passage pour le trafic de la drogue. D'ailleurs, quand on avait une remontée considérable du trafic et de kidnapping en Haïti, c'est parce qu'avec la présence de la MINUSTAH, avec la volonté de la police d'essayer de contrôler toutes les zones où il y avait des lâchages de cargaisons de drogue. Donc, il y avait un secteur qui ne pouvait plus faire ce type de trafic dans le pays. Donc, il s'était tourné vers le kidnapping pour continuer à faire de l'argent. Donc, il est clair que ce trafic reste l'une des grandes menaces pour Haïti. Et tant que nous avons ce trafic, il sera extrêmement difficile d'avoir un désarmement total de ce pays. Le gouvernement, le président est conscient. Il y a une réunion récemment qui a eu lieu en République dominicaine. Et le président a assuré le suivi de cette affaire pendant son passage ici à Washington. Il y a eu des rencontres avec les responsables de la DIA pour voir comment mettre, et au niveau de l'UE aussi, il y a une volonté de la CICAD de mettre le maximum d'infrastructures à la disposition du gouvernement haïtien pour affronter le problème du trafic de la drogue. Donc, à mon avis, tout est lié. Souvent, les trafiquants de drogue en Haïti ont intérêt à politiser leur comportement pour avoir beaucoup plus de force ou beaucoup plus de crédibilité dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est pourquoi nous pensons que le point positif, le gouvernement en est conscient et on cherche le maximum de support tant du côté du gouvernement américain que du côté de l'OEA pour voir comment adresser ce problème. Merci.
Thank you, Mr. Ambassador. If the representatives of Agride have any comments on any of these questions, we'd welcome them. You have about 10 minutes to use freely.
Nous avons centré notre travail de janvier année 2007 et nous sommes directement dans la région des Gonaïves. Et de janvier année 2007, l'insécurité battait son plein aux Gonaïves. La population ne pouvait pas dormir. Les gens sont traumatisés par rapport face aux bandits. Et ce n'est qu'après la mort, l'assassinat de M. Alex Joseph, avec l'arrivée du commissaire Daufeuille, eh bien, on commence à arrêter vendre les bandits. On commence à traquer les bandits et la population applaudit les opérations menées par la police. On dirait même la population rejoint le commissaire de police pour traquer les bandits. Et maintenant, la paix. Il y a la paix au Gonaïves parce que après l'arrestation d'un puissant chef de gang dénommé Wilford Ferdinand, tiré pour les intimes, eh bien, on commence à chercher, à rechercher tous les bandits qui opéraient dans la ville de Gonaïves. Il y en a qui sont jetés soit à Anse-Rouge, Gros-Monde, là où ils sont. La police déploie vraiment une volonté pour les arrêter. On a arrêté quasiment tous les bandits, tous les puissants chefs de gang qui opéraient dans la ville de Gonaïves. Concernant le désarmement, il y a des bandits qui ont remis leurs armes de façon volontaire, mais ceux qui n'avaient pas de problème avec la justice, et il y en a qui possédaient de lourds armes à feu. Et Dieu soit loué, maintenant, la police des Gonaïves détermine, a une détermination, je dirais, valable, de concert avec la population pour les arrêter. Le désarmement et la commission de désarmement ayant à sa tête l'ex-député Alex Fezzené ne touche pas vraiment tout le pays en réalité. Et ça fonctionne plus ou moins dans la zone métropolitaine, à Port-au-Prince et ses environs. Mais du côté des Gonaïves, c'est grâce à l'arrivée du commissaire Adolfeuille qu'on arrive vraiment à récupérer de lourds armes à feu. Et la population est vraiment satisfaite de l'arrivée de ce commissaire. Il y a un climat de paix actuellement au Gonaïves. Seulement, je vais ajouter concernant la détention. Il y a une sorte de détention pour l'ingénieur Gonaïves. Parce que au Gonaïves, il n'y a pas de prison civile. Il n'y a pas de prison civile au Gonaïves. L'espace qui est réservé et à garder les gens est trop petit. Jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à reconstruire la prison civile. Et les détenus vivant dans des conditions vraiment infrahumaines, des fois, nous sommes rendus au commissariat pour faire des constats, pour visiter les détenus. La condition est vraiment cruciale. Et d'autant plus, la justice et les autorités judiciaires au niveau de Gonaïves sont très lentes. On arrête des bandits, mais que fait la justice? Que fait la justice? Les dossiers marchent à petits pas. On aurait dû avoir une justice solide pour qu'on puisse arriver à juger les bandits comme il aurait fallu pour éviter la surpopulation carcérale au Gonaïves. Et l'exécutif a la volonté d'assainir la justice. Nous reconnaissons ça. D'épurer la police également. Nous reconnaissons ça. C'est un effort vraiment excessif fait par le gouvernement haïtien. Actuellement, au Gonaïves, la population circule parfaitement bien. La population n'a pas peur d'évacuer à ses activités. Nous souhaiterions que ce processus marche, continue pour que ce que nous avons vécu dans les jours, dans les mois passés, ne refont pas encore surface. Merci.
Mr. Ambassador, a final word.
Oui, mais vous savez que vraiment ça, c'est un débat qui peut être intéressant. Et moi, je pense que pour votre information sur la situation haïtienne, c'est important de mettre ça sur la table. Pendant que le représentant de l'AGRIBA parle, quelque chose m'est venu à la tête. C'est, il y a un écrivain haïtien qui s'appelle Dr. Payan, qui a écrit un livre sur la période 1902-1904. Il appelle l'illusion héroïque l'illusion du pouvoir. Il y avait un grand humaniste haïtien qui s'appelait Antenor Firmin, qui était candidat à la présidence à l'époque. Et en face, il y avait un militaire haïtien qui s'appelait Non Alexis, qui avait les armes, l'illusion de la force, l'illusion héroïque, et qui a barré la route à Antenor Firmin. En fait, en Haïti, c'est un problème culturel que nous avons. Il faut le connaître. Et c'est pourquoi c'est un débat intéressant. C'est important au niveau de la jeunesse des Gonaïves qu'on commence à faire aussi ce débat. Il faut reconnaître que les gens des Gonaïves étaient dans un premier temps aux côtés de ceux qui sont devenus des bandits. N'est-ce pas vrai? ceux qui sont devenus des bandits, ils ont libéré les Gonaïves parce qu'il y avait un problème avec le président en place. On voulait renverser le président en place. Il y en avait qui avaient suffisamment de courage, qui se sont armés et qui ont mené un mouvement armé contre le président en place. Mais au nom de l'acte qu'ils ont posé, ils pensent qu'ils avaient maintenant le droit d'imposer leur loi au reste de la population des Gonaïves. Et dans un premier temps, la population a sympathisé aussi avec ces gens. C'était presque impossible pour la police d'aller les arrêter, parce qu'ils étaient considérés par les gens comme des héros. Est-ce que j'ai menti? Voilà. Donc, moi, je pense que c'est là qu'il faut quand même faire attention, parce que l'impression que j'avais au début, c'est que vous étiez en train de rendre le pouvoir responsable, le pouvoir complice de ces bandits. Voyez? Donc, c'est vous faire un petit peu ressortir les limites de ces mouvements. Il y a un mouvement armé qui a renversé le président Aristide. Les gens des Gonaïves étaient de ce côté-là, mais malheureusement, culturellement en Haïti, quand des gens ont pris les armes, et c'est Haïti depuis 1804, ils pensent qu'à partir de ce moment, ils ont droit de vie et de mort sur le reste de la population. Donc voilà un problème que nous avons et que nous devons en être conscients et systématiquement voir comment gérer tout ça. Merci.
Thank you to all the parties. Obviously, the situation in Haiti remains enormously complex and will not be resolved tomorrow. So the Commission will remain always very attentive and interested to the developments. We invite the petitioners as well as representatives of the state to continue to submit any additional information to us in writing after this hearing in order to follow up on any of the questions discussed here. Thank you very much.